Vous écoutez, on lit pour vous.
Et si l'on réinventait l'État? Un texte de Daniel Lafrenière, paru le 30 septembre 2024 dans Le Devoir. Le Québec est l'un des meilleurs endroits où vivre sur cette planète. Cependant, cela ne le rend pas exempt d'épisodes de bêtises étatiques. Chaque fois qu'un média relate les déboires d'humains qui font face au dysfonctionnement, à la lourdeur ou à la rigidité des différents ordres de gouvernement, cela me touche, cela m'interpelle. À chaque publication du rapport du protecteur du citoyen, dont certains passages sont troublants, je me dis qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux. A-t-on vraiment considéré les besoins et les réalités des humains, qu'ils soient citoyens, usagers, patients, parents, élèves, nouveaux arrivants, dirigeants d'entreprise, au moment de mettre en place une loi, une mesure, un programme, un règlement, une procédure ou une solution numérique? J'en doute. On croit connaître l'humain, mais on ne l'a jamais vraiment rencontré. L'appareil étatique n'a jamais été aussi gros. On a investi des sommes considérables dans des solutions numériques. Et, malgré tout, la situation se détériore. Et je ne parle même pas des dépassements de coûts astronomiques de tout ce que l'on entreprend au Québec. Selon une étude récente réalisée par Somme, le gouvernement provincial et les municipalités sont les secteurs où l'expérience citoyen se serait le plus dégradée depuis la dernière année. L'État sait-il réellement ce qu'il fait? Prend-il les bonnes décisions? A-t-il bien réfléchi à l'incidence de ces dernières sur l'humain? Malgré de bonnes intentions, on dirait que certains élus, hauts dirigeants et professionnels ont oublié leur raison d'être, c'est-à-dire d'être au service de l'humain, et non l'inverse. Du côté des employés de l'État, la situation est si critique que, dans certains organismes, le taux de départ frôlerait les 20 %. Manque de personnel, processus alambiqué, système informatique désuet ou bogué, processus non documenté ou obsolète, rôles et responsabilités mal définis, chaîne de validation chronophage ou indécision systémique ne sont qu'un aperçu de ce qui ne tourne pas rond au gouvernement. Difficile pour un employé de demeurer mobilisé dans pareil contexte. On continue quand même d'ajouter des mesures, des programmes, des aides financières et des articles de loi. Tout cela submerge le pauvre employé qui tente tant bien que mal de maîtriser une multitude de règles tout en devant les expliquer aux citoyens médusés, confus et parfois apeurés et anxieux devant tant de complexité. « Ça va être compliqué », se dit l'employé. « Ça va être compliqué », se dit le citoyen. Malgré de louables efforts de transformation numérique, nombre d'organismes publics sont demeurés au 20e siècle, à l'ère du papier, des formulaires, de la poste et du télécopieur. La dette technologique du Québec est considérable. On n'a qu'à visiter un hôpital pour le constater. Le dossier santé numérique se fait attendre. Le projet d'identité numérique gouvernementale piétine. L'intelligence artificielle semble pour plusieurs hors de portée, alors qu'elle fait partie de la solution. Ce n'est guère mieux du côté des infrastructures. Des écoles sont en ruine. Il en est de même de certains hôpitaux où la présence d'insectes empêche des opérations. Le gouvernement doit se réinventer et s'apprête. Ses façons de faire actuelles, son gaspillage des ressources humaines, financières et matérielles et son immobilisme le conduiront inéluctablement à l'implosion et c'est déjà commencé. Il faut penser autrement. Des solutions existent, pour autant que l'on veuille remettre en question le sacro-saint statu quo. Pour citer Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'était « Et si l'on réinventait l'État? » Un texte de Daniel Lafrenière, paru le 30 septembre 2024 dans Le Devoir.
Est-ce que votre montre connectée vous ment? Un texte d'Alain McKenna, paru le 18 septembre 2024 dans la presse. Les montres connectées ne naissent pas toutes égales. Leurs capteurs sont utiles, par exemple, pour suivre son état de santé ou la qualité de son sommeil. Mais attention! Comme certaines activités sportives pour lesquelles ces appareils sont conçus, ils sont parfois dans le champ. C'est ce qu'une équipe de chercheurs universitaires irlandais a découvert plus tôt, à l'été 2024. Pour y arriver, ils ont récupéré 249 études scientifiques récentes qui ont analysé la précision des données collectées par les montres et bracelets d'entraînement portés par un total de 430 465 participants. Leur conclusion? Nous avons besoin d'outils de validation standardisés applicables pour l'ensemble de l'industrie pour rehausser la fiabilité et l'utilité réelle de ces technologies portatives. Google Pixel Watch 3. Parce que sinon, les fabricants de montres connectées peuvent affirmer à peu près n'importe quoi. Et on ne sait jamais trop à quel point ces affirmations tiennent la route ou le sentier. Par exemple, en lançant la troisième génération de sa Pixel Watch à l'été 2024, Google a assuré que son cardiomètre est parmi les plus précis sur le marché. Grâce à son rachat, il y a quelques années, du spécialiste de la santé connectée Fitbit, Google peut prétendre vendre la montre à System Wear OS, qui est la plus fiable en matière de suivi de la santé. Mais elle n'est pas parfaite. Des tests effectués par les spécialistes en santé de l'agence californienne Healthline ont confirmé la précision de son cardiomètre, mais en matière d'interprétation de la qualité du sommeil de son porteur, la Pixel Watch est susceptible d'errer. Google espère rivaliser avec l'Apple Watch, dont la 10e génération est mise en marché en septembre 2024. On peut présumer que celle-là aussi sera plutôt fiable, étant donné que des analyses universitaires indépendantes ont conclu dans le passé que les capteurs d'activité cardiovasculaire des Apple Watch précédentes avaient la précision des appareils spécialisés. Pour en rajouter une couche, Apple prend bien soin de mentionner chaque collaboration qu'elle peut faire avec les autorités réglementaires comme la FDA aux États-Unis ou Santé Canada chez nous. Des données pas si vitales. Outre ces deux-là, bien d'autres montres connectées peinent à remplir leurs promesses. Durant un même exercice de course à pied, on a pu constater une variation de 30% entre le rythme cardiaque moyen estimé par trois montres testées en même temps par la même personne. La OnePlus Watch 2 est celle dont les données étaient les plus éloignées des données affichées par une Apple Watch série 9 et une Polar Vantage V3. Cela va dans le sens de ce que les chercheurs de l'University College de Dublin ont découvert plus tôt à l'été 2024. La plupart des montres et bracelets connectés calcule avec précision un nombre très limité seulement d'indicateurs de santé. Selon eux, ils font une lecture généralement adéquate du rythme cardiaque et détectent près de 100% du temps les signes d'arythmie. Mais c'est à peu près tout. Ces accessoires surestiment systématiquement des indicateurs vitaux comme le VO2 max, qui calcule la capacité du corps à absorber de l'oxygène durant l'effort. L'intensité déployée durant un exercice est aussi généreusement exagérée de 20 à 80%. À l'inverse, il sous-estime le nombre de pas et la dépense d'énergie. C'est encore pire la nuit. Dans l'analyse du sommeil, les appareils qu'on porte sur soi quand on dort ont tous tendance à exagérer le temps passé à dormir, constatent les chercheurs irlandais. Il n'en faut pas plus pour invalider l'analyse de la qualité du sommeil faite par l'application mobile qui accompagne ces montres. C'est doublement embêtant, puisque ces données sont ce qui permet aux intelligences artificielles, IA, désormais omniprésentes sur nos téléphones, de fournir des conseils de santé de plus en plus poussés. Temps de récupération après l'effort, programme d'entraînement sur mesure, conseils d'alimentation, etc. L'IA a peut-être plein de qualités, mais elle ne fait pas de miracles. Si on lui fournit des données erronées, ses recommandations le seront tout autant. La bonne nouvelle est que toutes ces montres, apparemment, affichent la bonne heure. C'était « Est-ce que votre montre connectée vous ment ?» un texte d'Alain Mekena, paru le 18 septembre 2024 dans la presse.
Comment les éclipses dévoilent-elles les secrets du soleil? Un texte d'Annie Labrec, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. Les éclipses solaires offrent des occasions uniques d'étudier le soleil. En effet, une fois caché, notre étoile dévoile le mieux ses contours. Sur l'écran de son ordinateur, Paul Charbonneau montre une image fascinante de l'éclipse solaire du 16 février 1980, sur laquelle la couronne du soleil se déploie comme des pétales scintillants derrière la Lune. On observe souvent une couronne avec ce type de forme étirée lors des périodes d'activité maximale du soleil, décrit le professeur en astrophysique au département de physique de l'Université de Montréal, UDM. Chaque éclipse est unique. Et chaque éclipse est aussi une occasion rêvée d'observer la couronne solaire et la chromosphère. Ces régions externes du Soleil restent autrement invisibles, écrasées par la luminosité un million de fois plus intense de la surface visible, la photosphère. La Lune, en réalité, constitue notre meilleur allié technologique. En cachant le Soleil, elle offre un moment idéal pour son observation, car on ne peut pas éteindre le Soleil autrement. Résume Kelly Korek, astrophysicienne responsable du programme des éclipses solaires 2023 et 2024 à la NASA. Attendre une éclipse pour comprendre le Soleil. Cette réalité peut paraître paradoxale à l'heure où des satellites, des sondes spatiales et des instruments de pointe permettent de scruter notre étoile sur tous les angles. Ainsi, les ondes Parker et Solar Orbiter, respectivement lancées en 2018 et en 2020, sont bien placées pour observer l'étoile. La sonde Parker s'en est même approchée à 7 millions de kilomètres en septembre dernier, pulvérisant les records. Mais, aussi téméraire soit-elle, ces sondes ont un désavantage par rapport à l'observation d'une éclipse naturelle depuis la Terre ferme. Elles sont dotées d'un instrument appelé coronographe qui simule une éclipse artificielle en bloquant la lumière de la photosphère pour observer les couches moins lumineuses. Cependant, leur coronographe masque une surface un peu plus grande que celle que la Lune masque lors d'une éclipse, ce qui laisse une région de la chromosphère dans l'ombre de l'instrument. En observant le Soleil depuis l'espace, on rate une partie importante des structures qui sont situées tout près du disque solaire, mentionne Clara Froment, chercheuse au laboratoire de physique et chimie, de l'environnement et de l'espace, au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, en France. La chercheuse, qui est par ailleurs impliquée dans les missions Parker et Solar Orbiter, précise que les observations sur Terre, lors d'éclipses naturelles et dans l'espace, sont complémentaires, notamment pour comprendre ce qui se passe à l'interface entre la photosphère et le reste de l'atmosphère solaire. La chromosphère adjacente à la photosphère est uniquement visible pendant les éclipses, sous forme d'un mince anneau rougeâtre. C'est une région qui, même avec les satellites, est très difficile à observer, explique Paul Charbonneau, titulaire de la chaire de recherche de l'U2M en astrophysique solaire. Une couronne mystérieuse. Or, l'atmosphère solaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les propriétés thermiques inhabituelles de la couronne, notamment, ont longtemps intrigué les astrophysiciens. Pourquoi la température de la couronne est-elle si chaude par rapport à celle de la surface du Soleil? Et pourquoi l'atmosphère du Soleil s'échappe-t-elle et s'étend-elle dans notre système solaire en créant des vents solaires? S'interroge Clara Froment. La couronne solaire, composée de plasma, du gaz ionisé, et s'étendant sur des millions de kilomètres, se distingue par ses températures extrêmement élevées, défiant l'imagination. 1 million de degrés Celsius. Cela contraste avec la surface solaire qui avoisine plutôt les 6 000 degrés Celsius. Pour illustrer ce phénomène singulier, on pourrait le comparer à la chaleur émise par un feu de camp, qui deviendrait brusquement beaucoup plus intense quand on s'éloignerait des flammes. Un paradoxe thermique. Cette énigme a été en partie résolue, justement, grâce aux sondes spatiales Parker et Solar Orbiter qui ont observé de près les boucles coronales, des structures de plasma en arc de cercle qui s'étendent de la photosphère à la couronne solaire. L'oscillation constante de ces boucles, sous l'effet de phénomènes magnétiques, produit énormément d'énergie et serait possiblement la cause de ces températures extrêmes, selon une étude publiée à l'été 2023. Soleil en ébullition. L'éclipse qui nous attend promet d'être particulièrement propice à l'observation de la couronne, car le Soleil est en pleine ébullition, au cœur d'une période d'activité accrue. Le Soleil suit un cycle d'environ 11 ans, d'un pic d'activité au suivant. Vous écoutez? Comment les éclipses dévoilent-elles les secrets du Soleil? Un texte d'Annie Labrecque, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. Selon un article paru en septembre 2023 dans Science, l'activité du Soleil a déjà dépassé les prévisions, atteignant des niveaux jamais vus depuis 20 ans, et le maximum solaire pourrait arriver dans le courant de l'année 2024. Ce maximum était attendu pour 2025, mais notre astre semble en avance. Au pic de son activité, le champ magnétique du Soleil s'inverse. Cette agitation se manifeste par une intensification de taches, d'éruptions et de tempêtes solaires. Ces phénomènes magnétiques, en projetant d'importantes quantités de particules et de rayonnements dans l'espace, peuvent avoir des répercussions ici, sur Terre, en perturbant, entre autres, les systèmes de télécommunication. On s'attend à plus de phénomènes transitoires, tels que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, qui sont des particules à haute énergie se déplaçant à travers le système solaire. Signale Clara Froment du CNRS. Ces tempêtes éruptives correspondent à des flashs qui se produisent à la surface du Soleil et éjectent des flux de protons, d'électrons et d'ions à grande vitesse. Les plus grosses explosions, les éjections de masse coronale, peuvent expulser des millions de tonnes de plasma dans l'espace. Ce sont ces orages magnétiques, se déplaçant jusqu'à 3000 km/s, qui peuvent atteindre la Terre en quelques heures, perturber les télécommunications et générer des aurores boréales à des latitudes basses. Si l'activité solaire atteint un pic pendant l'éclipse, cela pourrait modifier de façon grandiose la forme de la couronne solaire, y compris pour le commun des mortels, qui pourrait même observer le phénomène avec des lunettes prévues pour l'observation et à l'œil nu pendant la phase de totalité. C'est d'ailleurs ce qu'espère Paul Charbonneau. Ce serait très intéressant d'observer une éjection de masse coronale au moment précis de l'éclipse totale d'avril. Il faudrait être très chanceux, mais cela s'est déjà produit en 1860, d'après des dessins de cette époque, raconte le chercheur. En effet, plusieurs personnes ont immortalisé l'éclipse solaire totale du 18 juillet 1860 en réalisant des dessins. Sur ceux-ci, on peut voir distinctement ce qui ressemble à une éjection coronale. Le scénario se répétera-t-il en 2024? L'éclipse dans l'œil averti des scientifiques. Dans tous les cas, les scientifiques se tiennent prêts. La NASA soutient 5 projets qui seront mis en branle lors de l'éclipse du 8 avril. 2 d'entre eux seront menés à bord d'un avion militaire WB-57 volant à haute altitude, environ 15 000 mètres d'altitude, contre 5 000 à 12 000 mètres pour les avions de ligne. Étant donné que l'avion suit l'ombre de la Lune, il bénéficie d'une durée prolongée de l'éclipse totale, soit environ 6 à 7 minutes. Malheureusement, les scientifiques ne peuvent pas monter à bord. Seuls les instruments y seront, indique Kelly Corrick, astrophysicienne à la NASA. À cette altitude, les scientifiques évitent les contraintes météorologiques au sol et la turbulence atmosphérique, ce qui leur garantit des conditions idéales pour la collecte de données. Une caméra filmera des images dans le spectre visible et dans l'infrarouge et sera à l'affût de nouveaux éléments dans la couronne solaire. Un spectrographe, quant à lui, décomposera la lumière reçue en différentes longueurs d'onde pour déterminer la composition et la température de la couronne et des éjections de masse coronale. Les données recueillies pourront nous fournir des informations sur la température de cette région particulière du Soleil, précise Kelly Corrick. L'équipe de la NASA se concentrera également sur l'analyse d'un anneau de poussière enveloppant le Soleil et sur la détection d'astéroïdes qui pourraient orbiter à proximité de notre étoile. La poussière peut sembler banale, mais pour nous, elle revêt un intérêt considérable, explique Kelly Corrick, car celle-ci subsiste depuis la formation du système solaire il y a environ 4,5 milliards d'années. En effet, le Soleil était enveloppé d'un disque de gaz et de poussière lors de la formation du système solaire. Une petite fraction de ces poussières demeure aujourd'hui sous la forme de multiples anneaux en orbite autour du Soleil. Lors de l'éclipse, Paul Charbonneau sera probablement au sommet d'une montagne dans la région des Cantons de l'Est. Son conseil? Ne perdez pas de temps à faire des selfies ou à prendre l'événement en photo. Vivez le phénomène! Il y aura assurément des instruments scientifiques qui l'immortaliseront à votre place. Qu'ont appris les scientifiques grâce aux éclipses solaires? Les éclipses solaires jouent depuis longtemps un rôle dans l'avancement de la science. Une éclipse en particulier, celle du 29 mai 1919, visible notamment en Amérique du Sud, a permis de vérifier la théorie de la relativité générale d'Einstein qui postule que la lumière provenant d'étoiles lointaines devrait être légèrement déviée par des objets massifs en raison de la courbure de l'espace-temps. Les scientifiques de l'époque ont mesuré la position des étoiles pendant la nuit sans la présence de l'objet massif qu'est le Soleil, ainsi que pendant une éclipse solaire totale, moment où elles apparaissent dans le ciel en même temps que notre étoile. En observant des étoiles derrière le Soleil, pendant que celui-ci était obscurci, les scientifiques ont vérifié la position des étoiles et ont constaté que leur lumière avait bel et bien été déviée par le Soleil, indique Kelly Corrick, astrophysicienne à la NASA. C'est aussi en partie grâce à des observations réalisées pendant une éclipse solaire que l'on a découvert l'hélium en 1868. Le spectroscope, un instrument inventé en 1815, décompose la lumière en plusieurs longueurs d'onde. L'astronome français Jules Janssen profita de l'éclipse de 1868 pour prendre des mesures. Il remarqua alors une raie de lumière jaune dans le spectre d'émission de la couronne dont la longueur ne correspond à aucun élément connu. L'hélium, dont le nom vient du grec « helios », soleil, venait d'être découvert. C'était « Comment les éclipses dévoilent-elles les secrets du soleil ?» Un texte d'Annie Labrecque, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.